vous élisant, dans votre nouveauté radicale à l'Assemblée nationale, le peuple français a montré son impatience à l'égard d'un monde politique trop souvent fait de querelles ou d'ambitions creuses où nous avions vécu jusqu'alors. C'est aussi à une manière de voir la politique qu'il a donné congé.
Un monde ancien à qui l'on donne congé, des femmes et des hommes portés par une radicale nouveauté. Le clan Macron s'est présenté aux Français revendiquant avec morgue sa jeunesse, sa pureté, son casier politique vierge. L'amateurisme comme credo garanti d'une façon de faire, d'une façon de faire réinventer. 5 ans après, ces gens-là ont désormais un passé et des comptes à rendre. Le journaliste Jean-Michel Apathy dresse un bilan de ce quinquennat et de ses multiples ratés, dévoilant les effets concrets de l'amateurisme, je le cite, impréparation, improvisation, imprécision. La coulisse, encore la coulisse, combien de livres sur la coulisse? Mais quelle image de la politique finira-t-on par donner aux Français à force, nous journalistes, de ne voir la politique que par le trou de la serrure? N'y a-t-il donc plus rien de grand, de noble dans l'exercice de l'État qui ne puisse se réduire à un ramassis de petites médiocrités humaines? Eh bien voilà, je suis heureuse ce matin de pouvoir poser la question à un confrère qui a 40 ans de carrière.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Dans la vie, l'amateurisme peut être une qualité. Sport, le fait de se donner aux autres, de faire en sorte que nous puissions tous être unis, d'une certaine façon, c'est bien. Mais il y a quand même un certain nombre de domaines où on veut des professionnels. Où c'est quand même mieux de savoir qu'il y aura des garanties. C'est quand même mieux de savoir qu'on connaît les Français. Et donc, moi, je revendique, non pas que le mandat politique soit un métier, mais quand même que c'est quand même préférable de savoir de quoi on parle, de savoir ce que représentent les Français et de savoir qui ils sont. Et ça s'appelle le respect.
François Hollande répondait au postulat d'Emmanuel Macron. Bonjour Jean-Michel Apathy.
Bonjour Sonia Dillard.
Soyez le bienvenu, les amateurs, les coulisses d'un quinquennat, burn-out, démission, trahison, panique, le voile se déchire sur le quinquennat. Ça vient de paraître chez Flammarion, couverture rouge et noir. Attention les yeux. Les amateurs font rire. C'est l'incipit d'un chapitre qui démarre page 185. Vraiment, tout ça n'est que risible.
Ah non, non, tout n'est pas risible. La politique est une affaire sérieuse. Oui. Les gens qui n'avaient pas d'expérience ont pris les commandes de l'État. Ils ont succédé aux gens qui avaient de l'expérience. Le trio Chirac-Sarkozy-Hollande a un bilan qui est catastrophique.
Nullissime, dites-vous.
Oui, bien sûr. La France s'est désindustrialisée. Elle s'est endettée. Tous les services publics ont dépéri. Le tissu social s'est désagrégé. Le bilan du trio de professionnels Chirac, Sarkozy, Hollande est catastrophique. Mmh. Et c'est bien parce qu'au fond, le peuple l'a senti qu'il se saisit de candidatures différentes. Emmanuel Macron hier, Éric Zemmour aujourd'hui. Peu importe au fond ce que les gens portent. Éric Zemmour est raciste, misogyne et homophobe.
Éric Zemmour... Mais il est nouveau.
Éric Zemmour, dans ses valeurs, on pourrait dire qu'il est l'anti-France. Il est exactement l'antithèse des valeurs de la République. Eh bien, c'est un succès. Pourquoi est-ce un succès? Parce que ce pays est malade. Qui l'a rendu malade? Beaucoup les professionnels et un peu les amateurs.
Mmh. Les amateurs, vous attaquez votre ouvrage humblement, Jean-Michel Apathy, en disant, au fond, nul ne sait ce que l'histoire retiendra.
Jamais, on ne sait jamais.
On ne sait jamais, vous faites de l'histoire immédiate,
la
finalement.
Politique, c'est de l'histoire immédiate.
C'est de l'histoire immédiate. Mais vous dites, leur méconnaissance de la machine de l'État les a sérieusement empêchés. Et vous allez chercher ces détails qui tuent, ces détails qui ne trompent pas, ces petites choses qui révèlent les grandes. Est-ce que le risque là-dedans, c'est de perdre de vue ce qu'il peut y avoir, je veux dire, de noble dans l'analyse de la politique et par là même dans la politique, de tout réduire à la médiocrité humaine, à l'hésitation, à la combination.
Il faut faire confiance aux lecteurs et aux citoyens.
C'est-à-dire que j'ai la sensation que là, tout rapetisse.
Mais vous avez tort. Je n'ai pas voulu faire une encyclopédie sur le quinquennat, j'ai voulu raconter comment Emmanuel Macron, qui voit la perspective de l'Élysée arriver très tard, quand il s'engage en campagne, il ne peut pas penser qu'il va gagner, il le pense en février-mars 2017, comment l'impréparation, c'est ça l'impréparation. Emmanuel Macron, il est profilé pour faire la campagne, il n'est pas profilé pour gérer le pouvoir, mais ça lui tombe dessus. Parce que Fillon et parce que Hamon. Fillon les costumes et Hamon une campagne de gauchiste qui lui fait perdre des tombereaux d'électeurs social-démocrates. Et donc, sans avoir réfléchi au pouvoir, Emmanuel Macron sélectionne un Premier ministre qu'il ne connaît pas et il organise le pouvoir. Je passe beaucoup de temps. Ça n'est pas une médiocrité, ça n'est pas de la coulisse. C'est de l'organisation. Comment marche l'appareil d'État?
Et sur quoi ça débouche? La gestion calamiteuse de l'ISF, les APL réduites de 5 euros, la taxe carbone, la sanction pour Alexandre Benalla, du foutage de gueule, dites-vous. Agnès Buzyn sortie du ministère de la Santé pour conquérir Paris, la bouillie infâme de la réforme des retraites. C'est-à-dire, oui, c'est quand même, vous faites un bilan.
Oui, je fais un bilan, mais je fais pas une analyse de la politique économique, je fais pas une analyse de la politique de la sécurité, je fais pas une analyse de la diplomatie, je fais pas tout. J'aurais pu tout faire parce que j'en ai les moyens intellectuels. Je peux tout faire, même la vaisselle. Mais j'ai choisi de faire autre chose. Et dans ce livre, je parle aussi d'autres choses dont la presse ne veut absolument pas parler.
On va y venir.
Ce qui me choque beaucoup.
On va y venir, Jean-Michel Apathy, j'ai lu tout
ce
votre
livre. Ce livre dit
et
aussi
j'ai
quelque
mis...
chose de nous.
Et j'ai mille questions.
De nous, la France.
Oui.
De nous, les journalistes. Nous proclamons des valeurs et nous y sommes infidèles.
Bon, vous voulez qu'on parle tout de suite des chapitres
comme
sur Nicolas
voulez,
Hulot? Moi, j'ai plein de questions à vous poser sur
ce
livre.
C'est comme vous voulez, mais j'ai remarqué que chaque fois que je viens vendre ce livre, on me parle de tout, sauf de la plainte pour viol dont a été
alors,
l'objet
je peux vous
Nicolas
passer,
Hulot.
C'est pas la peine d'être dans la provoque, Jean-Michel Apathy, parce que j'ai du respect pour votre travail, sinon je vous aurais pas invité. Et j'ai préparé 4 pages de notes, il y en a 2 sur l'affaire Nicolas Hulot. Vous voulez qu'on commence par là? Alors
c'est
on va écouter.
Voulez,
on va écouter Nicolas Hulot, invité de Jean-Jacques Bourdin dans la matinale RMC BFM TV. C'est la veille du jour où un magazine qui aujourd'hui a disparu, qui s'appelle Hebdo, allait sortir une enquête révélant une plainte pour viol déposée il y a plusieurs années à l'encontre de Nicolas Hulot, à l'époque, il était encore ministre.
Et donc, nous sommes le 8 février 2018.
Allons-y.
Et là, on change de registre. On sort la botte secrète. L'arme infaillible. Celle qui blesse. Celle qui tue. Celle qui crée la suspicion. Celle qui crée le doute. Et on passe sur le sujet de ce qu'on appelle le sexe, la vie privée. Et là, c'est pas pareil. On franchit une ligne rouge. Et par voie de conséquence, on touche à mon honneur, il s'en remettra. Il touche à ma famille, à mes enfants, et là je vais remettre les pendules à l'heure, et je dis stop.
Qu'allait-il sortir le lendemain dans ce magazine qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelait Hebdo Jean-Michel Apathy?
Il allait sortir le fait que une femme qui avait croisé la route de Nicolas Hulot en juin 1997 avait déposé plainte pour viol contre lui 11 ans plus tard. Les faits étant prescrits, la justice n'a pas enquêté. Des gendarmes à Saint-Brieuc ont entendu Nicolas Hulot à sa demande à la fin août 2008. Mais les faits étant prescrits, le procureur de Saint-Malo a dit « nous n'enquêtons pas ». Et donc nous en sommes restés là. Et 10 ans plus tard, Hebdo, dans un papier mal ficelé, nous apprend qu'une plainte pour viol a été déposée contre Nicolas Hulot.
C'est ça, cette affaire n'avait jamais été médiatisée.
Personne dans la presse ne s'est posé une question simple, que je ne relais d'ailleurs pas dans le livre, mais c'est pour vous dire à quel point nous sommes infidèles aux valeurs qui sont les nôtres. Est-ce que Emmanuel Macron était au courant, et s'il avait été au courant de la plainte pour viol, aurait-il nommé Nicolas Hulot ministre? Le mouvement MeToo se déroule en octobre 2017. Reprenez la presse. Avec une bonne conscience absolue, la presse dit « il faut écouter les femmes quand elles se plaignent des violences dont elles sont victimes ». Parce que la prise de parole des femmes est toujours difficile, parce qu'elles sont honteuses et culpabilisées. Quelques semaines après, nous apprenons donc que Nicolas Hulot a été l'objet d'une plainte pour viol. Une plainte, ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas.
C'est ça le problème.
Mais on peut poser des questions. Ah, c'est ça le problème. Jean-Jacques Bourdin n'en pose aucune.
Alors, Jean-Jacques Bourdin interview Nicolas Hulot, il n'a pas lu le papier, malheureusement.
C'est Nicolas Hulot qui s'invite chez Jean-Jacques Bourdin. Nicolas Hulot a embauché un communicant de crise. Il va chez Jean-Jacques Bourdin avant l'apparition du papier, ce qui est extrêmement fort. Et il ne s'agit pas, comme le dit Nicolas Hulot dans l'extrait que nous avons entendu, de sexe et de vie privée. Il s'agit d'une femme qui se plaint d'une violence. Peut-être s'en plaint-elle à tort, mais on ne le sait pas. Et pendant toute l'interview, 25 minutes... Jean-Jacques Bourdin demande à Nicolas Hulot s'il souffre, s'il a mal et s'il va démissionner. Quand il sort du studio, Nicolas Hulot est la victime. Quand il sort du studio, Emmanuel Macron fait dire par son porte-parole « j'accueille tout cela avec une sérénité de marbre ». Vous vous rendez compte? Un de ses principaux ministres est accusé, ce qui ne veut pas dire qu'il est coupable, d'un viol qui est un meurtre, et le président nous dit, c'est pas de l'amateurisme ça, je prends ça avec une sérénité de marbre. Et Marlène Schiappa, trois jours après, dans le journal du dimanche, écrit un papier, elle qui dans le gouvernement est chargée de défendre les femmes victimes des violences faites par les hommes, elle écrit, Nicolas Hulot est un type bien. Eh bien je vais vous dire, Marlène Schiappa, elle est comme vous et moi encore aujourd'hui, elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien, mais elle l'écrit. Et à partir de là, la presse se détourne complètement de cette histoire, au point, Sonia, que Nicolas Hulot annonce sur France Inter, à la mi-mars, je vais porter plainte, jamais je ne pardonnerai. Puis le 26 décembre...
Il retire sa plainte.
Le 26 décembre, pas le 2 décembre, hein, le 26 décembre, quand vous et moi on avait mal à la tête du réveillon, la plainte est retirée, c'est son avocat qui l'annonce. Et quand Nicolas Hulot, sur France Inter, vient annoncer sa démission le 28 août 2018, pas une question ne lui est posée là-dessus. Personne parmi les gens qui l'accueillent dans la matinale d'Inter ne lui dit, mais il y a plusieurs journalistes autour de la table, hein. Il n'y en a pas que deux, il y en a quatre. Lui dit, mais est-ce que dans votre lassitude d'être ministre, cette affaire d'ordre privé a joué ou pas?
Alors, entre-temps, qu'il faut qu'on raconte l'histoire bien complètement, sûr, Jean-Michel Apathy, entre-temps, le nom de cette jeune femme qui avait 19 ans à l'époque est sorti, il s'agit de la petite fille de François Mitterrand.
De François Mitterrand, je m'en fous en fait.
De Pascal Mitterrand.
C'est une femme.
Oui.
Je m'en fous moi.
Oui.
C'est la petite fille de François Mitterrand, je m'en fous complètement.
Alors, l'histoire que vous racontez, Jean-Michel Apathy, c'est que cette jeune femme avait 19 ans, qu'elle était stagiaire dans une grande agence de presse prestigieuse qui s'appelait SIPA. Que cette agence était encore dirigée à l'époque par son fondateur, Göksin Sipahyuglu, qui est mort aujourd'hui. Que son fondateur envoie cette jeune stagiaire de 19 ans en reportage pendant 5 jours au domicile corse de Nicolas Hulot pour prendre des photos de la maison. Que cette jeune femme demande à être accompagnée, à ne pas y aller seule. Que d'abord on lui dit oui, qu'ensuite on lui dit non, que finalement, elle y va seule, que c'est là-bas que le viol se serait produit. C'est ce qu'elle raconte en rentrant à Göksin Sipahyuglu.
Non. Quand elle rentre, elle lui donne le travail. Elle lui dit, je cesse de travailler avec vous. Je ne travaillerai plus dans aucune agence. Je change de vie. Elle ne lui raconte rien. Elle ne raconte rien à personne. La seule fois où elle va raconter quelque chose à quelqu'un, c'est 11 ans plus tard, donc, faut-il que ça allait travailler quand même? Il y a une douleur. C'est à cette douleur que nous sommes complètement indifférents. C'est un scandale d'être indifférent à la douleur. Elle le raconte aux gendarmes 11 ans plus tard.
Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est quelles sont vos sources à vous? Vos sources à vous, c'est l'enquête d'une autre consoeur?
Non, pas du tout.
Alors.
Mes sources à moi, elles sont multiples. D'abord, je raconte assez précisément la situation de cette jeune femme dans l'agence. Je raconte assez précisément comment le patron de l'agence lui a dit qu'elle serait accompagnée, puis qu'elle ne le serait pas. Tout ce passage-là, c'est une enquête à moi.
D'accord.
Avec des gens qui étaient à l'agence à cette époque. C'est une enquête qu'immodestement je qualifierais de solide et qu'immodestement je qualifierais de pas difficile à faire. Si moi je l'ai faite, d'autres peuvent la faire.
Mmh.
Encore faut-il en avoir l'envie. Encore faut-il être motivé par le souci de regarder en face le désintérêt des médias pour la violence que l'on fait aux femmes.
Mais cette enquête, Jean-Michel Apathy, elle porte sur la position de Pascal Mitterrand avant qu'il ne se soit passé quoi que ce soit dans une agence de presse.
Elle porte sur la position d'une journaliste qui dit, d'une photographe qui dit, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'expertise et je n'ai pas la solidité pour aller toute seule chez Nicolas Hulot. Et ensuite, il y a le travail de Bérangère Bonte de son côté qui a fait une biographie de Nicolas Hulot et qui apporte le témoignage. Vous savez, dans ces affaires-là, il n'y a pas de témoin, en fait. Et Bérangère Bonte apporte ce joyau pour essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi, éventuellement, il y a une douleur. Elle apporte ce témoignage du patron de l'agence qui explique que Nicolas Hulot, c'est lui qui le dit, ayant vu la photographie du visage de la photographe sur la journaliste, a souhaité qu'elle vienne seule chez lui. Voilà. Moi, j'aurais aimé confronter Nicolas Hulot à des questions, ce qui n'a pas été fait, puisque Nicolas Hulot renvoie toujours à l'intérieur de Jean-Jacques Bourdin.
Alors,
et j'aurais aimé le confronter à des questions.
Bérangère Bonte,
et il a le droit.
N'a pas
il
publié tout cela. Bérangère Bonte a choisi de le raconter il y a quelque temps sur la scène d'un théâtre au cours d'un spectacle qui s'appelle le Live Magazine, où des journalistes viennent raconter devant un public un récit de leur choix, une enquête de leur choix. Ce témoignage n'a pas été enregistré par les organisateurs du Live Magazine. Magazine qui souhaite que ce qui est raconté sur la scène du Live Magazine reste là-bas. Ouais. Il se trouve qu'un spectateur a enfreint la règle et l'a enregistré, vous dites avoir la bande. Mais
Je l'ai.
Voilà,
je l'ai.
Les organisateurs du Live Magazine ne veulent pas confirmer les propos qui ont été tenus sur scène et Bérangère Bonte ne veut pas avoir à y être mêlée.
Mais oui, ça c'est leur problème. Ça. Voilà, je l'ai. Voilà. C'est-à-dire que j'ai entendu Bérangère Bonte sur la scène du Casino de Paris, devant 1000 personnes, raconter qu'elle n'a pas compris en 2009, puisqu'elle voit Sipahioglu en 2009, le message, la culpabilité de Sipahioglu. J'ai envoyé cette femme seule chez Nicolas Hulot, et elle dit à la fin de son témoignage, je l'ai entendu, je l'entends, je l'ai là, le témoignage, je suis hanté.
C'est ce qu'elle dit, dites-vous, sur la scène.
Il y a 3 ans et demi, elle a dit ça. Et donc, on entend aussi Sipahioglu qui dit « J'ai envoyé cette jeune fille chez Nicolas Hulot ». Voilà.
Voilà. Et alors, de quoi accusez-vous les médias ?
Les médias, mais...
Parce qu'il s'agit donc d'une plainte prescrite, il n'y a donc pas eu d'instruction, il n'y a pas eu d'enquête. Alors, à ce stade, Nicolas Hulot n'est pas coupable. Enquêtes sur...
Vous avez raison. La prescription ne gêne pas les médias quand il s'agit de Camille Kouchner. La prescription ne gêne pas les médias quand il s'agit de Vanessa Springora. La prescription ne gêne pas les médias quand il s'agit de Flavie Flamand.
Eh ben alors, c'est bien la question que je vous pose. Je ne cherche absolument pas à défendre Nicolas Hulot. Ce n'est pas mon boulot.
Mais si tout le monde le défend,
Des enquêtes, il y en a eu énormément.
Mais
sur des faits prescrits. Non, mais sur tout un tas de gens, tout un tas de personnalités, politiques ou pas politiques.
Mais c'est très dur.
Sur des faits prescrits et sur des faits non prescrits.
Moi, ce qui m'intéresse.
Pourquoi là, rien n'est sorti.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Nicolas Hulot. C'est l'infidélité des médias, des responsables politiques, parfois hélas, mais ce sont des femmes courageuses, des féministes, dans le débat que je trouve très important de la violence faite aux femmes. Les femmes qui sont victimes d'hommes, qui imposent leur désir sexuel, ont beaucoup de mal à prendre la parole. Et quand elles prennent la parole, il faut les écouter. Et là, nous sommes, dans l'histoire du lot, nous sommes infidèles. Je ne dis pas que Nicolas Hulot est coupable, je n'en sais rien.
Bah,
je dis, écoutez la femme. Écoutez ce qu'elle dit. Cherchez à comprendre pourquoi une femme qui croise la route d'un homme en juin 1997 éprouve le besoin, ce quand même pas une partie de plaisir, de franchir la porte d'une gendarmerie 11 ans plus tard. Et si vous répondez à ça, parce que des journalistes me répondent à ça, et je trouve ça pas bien, prescription, c'est que vous êtes totalement insensible à la douleur humaine. Nous avons actuellement, sur le plateau politique, un homme qui est porteur d'une misogynie épaisse comme je n'en ai jamais vu, et nous sommes en train de plébisciter cet homme.
Là, vous parlez d'Éric Zemmour, vous ne parlez pas Nicolas Hulot.
En achetant son livre. J'aimerais que la balance soit un peu équilibrée. Et qu'on se soucie
de cette
question de la violence faite aux femmes.
Je vous repose une dernière fois la question Jean-Michel Apathy. Il y avait 1000 questions à vous poser sur ce livre, mais c'est pas grave, vous reviendrez en partant une autre fois. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose que je comprends pas, c'est-à-dire que quand il y a du solide, qu'on parle de grands historiens, de grands cinéastes, de grands producteurs de cinéma, qu'on parle d'hommes politiques, les enquêtes, elles sortent, Jean-Michel Apathy.
Mais du solide, il n'y a pas de solide dans Weinstein, il n'y a que des témoignages. Et donc on choisit de croire les femmes, on choisit de les écouter. C'est pas du solide. La scène fondatrice de la plainte, c'est une scène à huis clos. Il n'y a pas de témoins. Et dans ce livre, il y a autre chose. L'histoire de Pascal Mitterrand, je cite son nom là volontairement, est miraculeuse. Parce qu'en plus, Mazarine Pinjot a écrit dessus.
Mazarine Pinjot a écrit un roman. Elle a dit c'est une fiction et je me refuse à donner des noms.
Mazarine Pinjot,
Et elle l'a répété. Et elle ne vous en donne pas plus à vous.
Elle se fera découper en rondelles plutôt que dire que sa source d'inspiration, c'est cette histoire-là. D'accord. Mais il n'empêche qu'il y a ce livre, Se taire, qui raconte comment une jeune photographe se fait violer par le prix Nobel. Voilà. Moi, je l'ai mis dans ce livre en me disant que c'était un roman, mais enfin, chacun en pense ce qu'il en veut. Je voudrais terminer juste une dernière chose, Sonia de Villers.
On rend l'antenne, Jean-Michel.
La lutte contre les violences faites aux femmes. Le journal Le Parisien, lundi, signale à ses lecteurs que c'est l'anniversaire de Patrick Poivre d'Arvor. Comme s'il ne s'était rien passé. C'est ça la France. Moi, je n'aime pas ça.
Merci. Merci d'avoir été mon invité.
Merci
les amateurs, les coulisses d'un quinquennat.
Vraiment, c'est très gentil.
Flammarion. Eh bien, vous ne m'avez pas laissé le choix.
Mais j'étais très heureux de le faire avec vous.
C'est la fin de l'émission.